D'abord, merci beaucoup d'être là, parce que les amateurs de nouvelles sont si rares en France que je craignais bien que ce soir, on soit deux, peut-être un, peut-être pas du tout, juste entre nous. Et donc, je vois qu'il y a une foule d'amateurs quand même. Et ça me fait plaisir, parce que c'est le genre de livre d'entreprise qui sont un peu décalés, un peu originales en France. Avec les nouvelles, ça marche très très bien dans le monde anglo-saxon, dans le monde hispanique. Mais en France, c'est, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Ou plutôt, j'ai un peu un point de vue sur pourquoi ça ne marche pas. C'est d'abord parce que je crois que les éditeurs n'ont pas beaucoup de courage de ce côté-là. Et puis, les auteurs non plus. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se lancer, finalement, à faire court, parce que c'est fatigant. Et j'expliquerai peut-être
oui,
pourquoi,
on va peut-être
pourquoi
revenir
c'est
là-dessus.
Fatigant. En tout cas, merci d'être là. Et vous m'êtes d'autant plus cher que voilà, nous sommes rares. Voilà.
Voilà, donc dans cette ambiance un petit peu intimiste. Donc merci d'être venu, merci à tous. Merci à Hervé Hamon d'avoir accepté de venir donner une conférence ici autour de son dernier ouvrage, donc un recueil de nouvelles, comme vous l'aurez compris, qui s'intitule « La diagonale du traître ». Donc, qui est celui-ci, paru aux éditions Dialogue. Donc, je vais juste vous dire quand même quelques mots sur Monsieur Hamon, si vous permettez. Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes originaire donc, de Saint-Brieuc, né en 1946. J'espère que ce n'était pas un secret. Jusque-là, tout va bien.
Pas du tout.
Et vous avez quand même fait pas mal de choses avant de vous tourner vers l'écriture. Donc, vous avez commencé par enseigner la philosophie un petit peu, pendant 5 ans. Mmh. Et ensuite, vous avez travaillé pas mal dans l'édition. Est-ce que vous continuez d'ailleurs à travailler dans...
Oui, mais en fait, l'édition m'est venue... C'est-à-dire, j'ai été 5 ans professeur, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, ça m'a plu. Mais j'ai démissionné parce que j'avais l'occasion de vivre de ma plume, enfin de me lancer.
Ouais,
et c'est à travers ça que je suis devenu également éditeur, puisque je publiais à ce moment-là aux éditions du Seuil, et ils m'ont dit, bon, est-ce que tu n'as pas envie de faire une collection? Mais pour moi, l'activité d'éditeur a été un peu seconde toujours par rapport à la production de livres. Quoi.
D'accord, c'est, donc écriture.
Ça dit, bon, ça a pris une part de ma vie. Au Seuil, j'ai publié, je crois, 23 livres. J'ai édité 250 livres et j'en ai publié 23, oui, c'est ça.
D'accord. Donc, écriture, édition, également journalisme. Vous avez collaboré
oui, brièvement,
à un
oui, pendant j'ai eu 5 ans où j'étais journaliste, où j'avais une carte de presse. Mais ça, c'était les années d'après 68, quoi. C'était un peu...
Ça remonte un petit peu.
Oui, d'abord, ça date un peu. Et ensuite, c'est un drôle de journalisme. J'étais dans un journal qui s'appelait Politique Hebdo, et qui était un peu la plateforme du mouvement issu de 68. Ça n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Je dirais, moi, aujourd'hui, qu'on ne peut pas, par exemple, être journaliste et partisan, par exemple, il me semble. Hein. Et à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions. Donc, voilà, c'est du passé.
D'accord. Donc pour en revenir à l'écriture plus précisément, puisqu'évidemment c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc vous avez écrit des livres assez diversifiés, donc appartenant à la littérature maritime, des essais, qu'ils soient politiques, historiques, sur des questions également des questions sociales, sur l'éducation, sur le milieu médical, tout ça, des autobiographies également, récemment.
Oui, une autobiographie.
Une chez
oui.
Stock. Voilà. Et plus récemment, donc vous mettez à la fiction. Donc vous avez commencé en 2007 avec Paquebot, ça, ce premier,
c'est ça, ouais.
Premier roman. Ensuite, un roman feuilleton paru en 2008 sur mai 68. Donc on sent bien que
pour lequel j'étais
ça
venu
vous a
ici.
Marqué.
Oui, oui.
Voilà, vous avez vu à ce moment-là. Et donc cette fois-ci, c'est votre troisième livre de fiction, donc un recueil de nouvelles, premier recueil de nouvelles pour vous. Donc on va revenir là-dessus évidemment. Donc je vais juste présenter un petit peu ce livre brièvement, et puis après on va vous écouter, surtout nous en parler puisque c'est ce qui nous intéresse, nous sommes d'accord. Donc c'est un recueil de 12 nouvelles qui est assez surprenant. Donc le fil conducteur, évidemment comme le titre l'indique, c'est la trahison. C'est une approche surprenante dans la mesure où, à chaque fois, les traîtres dont il s'agit sont, en tout cas bien souvent, on ne s'attendait pas à ce que la trahison réside à tel endroit. Donc le lecteur est surpris, c'est aussi l'intérêt de la chute dans la nouvelle d'ailleurs. Donc c'est assez original. En même temps, ce sont des nouvelles qui prennent des angles souvent différents. Donc, que cette trahison soit d'ordre sentimental, affectif, ou qu'elle soit d'ordre politique ou professionnel. Donc, ce sont des approches différentes. Donc, un petit peu pour reprendre une de vos citations, donc une phrase du recueil. À travers ceci, on peut explorer les arcanes raffinées de la trahison. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, il y en a une douzaine, toutes très, très riches, certaines plus légères que d'autres, d'autres vraiment très, effectivement très, très graves. Donc, on va revenir là-dessus. Alors, donc pour commencer, je voudrais vous nous parler un petit peu de l'origine, des raisons de votre écriture. Enfin, de ce projet, un petit peu. D'où vous est venue l'idée, comment vous êtes arrivé là, à écrire ce livre?
C'est le premier livre d'une nouvelle maison d'édition. Alors ça me paraissait formidable, parce que jusqu'ici, j'avais toujours publié dans des maisons très anciennes, qui avaient des catalogues glorieux, etc. Et là, c'est un ami qui est libraire, qui est un grand libraire, un peu l'équivalent de la librairie où je suis ce soir, qui est la librairie Dialogue à Brest. Ça fait 30 ans que je crois, enfin ça fait 30 ans que j'ai publié mon premier livre, et ça fait 30 ans que je vais à Dialogue quand je sors un livre. Et je crois que depuis 30 ans, je l'ai toujours entendu dire, je suis libraire et l'édition, moi j'y touche pas. C'est pas mon métier, je ne sais pas faire, ça c'est ton boulot, c'est ton métier, mais c'est pas le mien. Et puis il y a 2 ans, il s'est mis à, j'ai vu que ça a changé beaucoup dans sa tête, et il a dit, je veux faire une maison d'édition et je te commande un livre de nouvelles. Je lui ai dit, faire une maison d'édition, très bien, c'est quelque chose d'assez difficile et courageux. Tu as du savoir-faire, tu connais le milieu, tu connais la paroisse, tu seras bien diffusé, c'est diffusé par Gallimard, donc c'est quand même très important d'assurer ses arrières. Mais commencer par des nouvelles, tu es fou. Franchement, ça va rester forcément, fatalement, confidentiel. Il a dit, ça m'est égal. Et je trouve qu'en France, ce n'est pas normal. Donc, autant commencer par quelque chose d'original. Donc, c'est une commande. Et il avait même une idée, une commande très précise. C'est-à-dire qu'il voulait un livre de 12 nouvelles dont chacune fasse 12 feuillets. Donc, il voulait que, en gros, il voulait appeler ça la collection 144. Et puis, en fait, moi, je m'y suis tenu. Et j'ai accepté cette règle un peu oulipienne, un peu de Raymond Queneau, quoi, de se plier à la règle, à la contrainte. Mais mon ami Paul Fournel, par exemple, qui lui a donné un autre livre, n'a pas réussi à s'y plier ou n'avait pas envie de s'y plier, donc on a supprimé le 144. En tout cas, voilà, c'est une commande, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Et simplement, je lui ai dit, je pense qu'il serait bon que ces nouvelles aient un thème, parce que je me disais, après tout, si c'est si difficile à faire circuler, à faire reconnaître en France, au moins qu'il y ait un fil conducteur, un peu à la manière dont un écrivain que j'aime beaucoup, qui est le chilien Francisco Coloane, quand on lit ces nouvelles... ça n'est pas un roman, mais on est dans une sorte de communauté de thèmes, d'approches, d'ambiances, etc. Et finalement, on a un plaisir, je dirais pas équivalent à celui d'un roman, je pense qu'il est plus grand. Et je me disais, on va peut-être chacun des auteurs, prendre un thème et essayer de le dévider un peu. Pour moi, il m'a paru évident que ça devait être le thème du traître, parce que c'est, il suffit de connaître Shakespeare ou d'avoir fréquenté l'histoire ancienne. Enfin, il n'y a pas de thème plus universel, plus génial, plus. Enfin, je le je le qualifierais de, disons, d'ouvre-boîte universelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui déchaîne immédiatement les passions et l'imagination. J'en ai fait 12 puisque c'était la commande, je me suis tenu là, mais j'aurais franchement pu en écrire 48. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas, enfin, je veux dire, vraiment la page blanche, pas là-dessus, pas sur ce sujet-là, c'est vraiment impossible. Et ce qui m'intéressait, c'est que le traître, évidemment, n'est pas le méchant d'un réseau de résistance qui donne son copain pour de l'argent. Ça, ce n'est pas intéressant une seconde, et je crois d'une certaine manière que probablement ça n'existe pas. C'est-à-dire que je ne crois pas une seconde que Judas, par exemple, a donné Jésus pour 30 deniers, et je pense que Judas est nécessaire à l'histoire, est nécessaire à la tragédie, et que bien sûr, j'ai envie de dire, Jésus s'appuie sur Judas, comme Judas fait exister finalement, met Jésus en gloire. Et c'est ce qui m'intéressait chez le personnage du traître, c'est que le traître, c'est un déviant, c'est quelque chose qui finalement nous traverse. C'est pour ça, d'où le mot de la diagonale. Je pense que le traître, il est en nous, que nous sommes tous un peu traîtres, et j'ajouterais, je dirais heureusement, car traître, c'est pas forcément, prenons l'exemple de Kundera, que je citais, Kundera a été considéré comme traître par le parti communiste de son époque, et souvent le traître a raison. Et j'ai voulu essayer d'écrire des histoires de traîtres quelquefois souriants, quelquefois sympathiques, quelquefois amusants, quelquefois prophétiques et quelquefois affreux. Parce que quand même, la trahison, c'est quand même pas quelque chose qui est anodin, qui n'est pas léger. Mais ce qui m'intéressait, c'est que justement la trahison, on peut pas la réduire à une sorte de fable morale ou de fable éthique qui serait élémentaire. Et d'ailleurs, ma dernière histoire est une histoire de Judas, justement, que je tenais à raconter, parce que moi j'aime beaucoup Judas. Je trouve que c'est un personnage compliqué, profond, quand on s'intéresse à l'histoire de la Palestine, de la Galilée. Judas était un zélote, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un résistant aux Romains, et qui a été déçu par le personnage de Jésus. Et peut-être même Judas a considéré que Jésus était un traître, de s'en tenir finalement à dire que sa mission n'était pas de ce monde et qu'il ne prendrait pas les armes. Je ne sais pas. En tout cas, toute cette ambiguïté m'intéressait, et j'ai essayé en plus de décliner ça sur des modes et des tons différents. La merveille de la nouvelle, c'est que vous pouvez à chaque fois, à chaque moment, redécider de vous exprimer à la première personne ou à la troisième personne, d'écrire au présent ou d'écrire à l'imparfait ou au passé simple. Finalement, vous avez 12 romans dans un livre et 12 choix de romans dans un livre. Quand vous faites un roman, je suis en train d'en écrire un en ce moment, eh bien, vous installez vos personnages, vous les pensez bien, vous faites des choix fondamentaux, vous dites ça, par exemple, je vais dire je ou je ne vais pas dire je, ce qui est toujours un choix considérable pour un roman. Et là, je suis en train d'écrire un livre où il n'y a pas de je, où il n'y a que des il, des elle, et je fais ce choix, et j'installe aussi le je choisis le temps, ça va s'écrire au passé simple, et ça va se situer dans telle période, et j'ai envie de dire après, il n'y a plus qu'à laisser se développer. Je ne veux pas dire que c'est rien, que ce n'est pas de travail. Mais là, ce qui est particulier, c'est que dans la nouvelle, on a quelques pages pour installer tout ça, pour choisir ses personnages, pour choisir la subjectivité, l'angle, pour décider si ça sera drôle, si ça sera tragique, si ça sera méchant, si ça sera... Et puis, on installe tout et on s'en va. Le temps que finalement on ait fait cette installation, qu'on ait noué les choses... On s'arrête, on dit en quelque sorte au lecteur, finissez vous-même, c'est à votre imaginaire, c'est à vous de faire le chemin. Vous savez, il y a des romans que j'aime beaucoup, les romans où les lecteurs sont invités à contribuer au roman. Par exemple, j'admire beaucoup Doris Lessing, mais quand on lit un livre de Doris Lessing, il n'y a plus de place pour le lecteur. C'est-à-dire que tout est tellement pensé, préparé, expliqué, vous arrivez au bout du roman... Il n'y a plus de doute, en quelque sorte.
Puisque vous parlez de... Excuse-moi de vous interrompre. Puisque vous parlez d'autres auteurs, en général, les romanciers trouvent ça très... très difficile de se mettre à écrire des nouvelles soudainement. Je pense par exemple à Jonathan Coe, avec qui j'en parlais il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait que justement on lui avait demandé d'écrire une nouvelle sur un thème bien précis également, et que c'était une mission presque impossible pour lui, parce qu'il a tellement l'habitude d'écrire des romans que... Quand il commence, l'histoire prend son envol, un peu malgré lui, et lui échappe presque. Et c'est surprenant de voir que, justement, un auteur généralement de romans, enfin, d'essais également, mais vous avez écrit quand même des romans aussi, ou des choses un petit peu plus longues, on va dire.
Mon roman d'avant faisait 500 pages, oui.
Mais voilà. Donc c'est surprenant de voir que vous ayez réussi et que vous ayez apprécié, peut-être à ce point, cette contrainte formelle de taille, de réduction.
Je ne crois pas que ça n'est que formel. Le côté formel de boucler tout ça en 12 pages, ça m'amusait. Ça, c'est un jeu.
C'est pas évident.
On vous présente une espèce de défi, vous essayez de le remplir. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. C'est comment peut-on passer le témoin au lecteur? Comment peut-on... je pense que la littérature, c'est de l'inachevé, personnellement. Et je suis de ces écoles qui laissent beaucoup de place, encore une fois, au lecteur, à l'apport du lecteur. Et je pense que d'autres qui sont des grands écrivains, que j'admire, hein, qui ont un savoir-faire formidable, ils sont... C'est un peu comme une conférence, si vous voulez, où tout serait donné et où il n'y a plus aucune place pour les auditeurs. Moi, j'aime bien les romanciers, par exemple, colombiens, les romanciers mexicains, ces gens qui livrent des choses qui sont quand même... c'est à vous d'apporter votre imaginaire, votre contribution, en quelque sorte. Et c'est cette forme-là qu'à mon avis, la nouvelle revendique. C'est-à-dire que dans la nouvelle, ça n'est pas comme on le croit, quelque chose de tiré au cordeau. Ça, bien sûr, il y a ça. Parce que dans une nouvelle, on installe, ça monte, et puis il y a une chute, et puis formellement, académiquement, en quelque sorte, on a des contraintes très fortes. Mais sur le fond littéraire, il faut avoir le sens de l'abandon. Et il faut laisser après les choses continuer hors de soi. Ne pas prétendre poursuivre ces personnages jusqu'au bout. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de séduisant et d'attachant là-dedans.
Une forme d'ébauche.
J'ai fait par exemple une nouvelle qui est une histoire, parce que je voulais faire une espèce de clin d'œil au roman policier des années 50. Et je fais l'histoire d'un jeune flic qui rencontre un indicateur. Et donc la nouvelle, c'est simplement le dialogue entre le flic et son indic. Simplement, le flic se dit, mais pourquoi cet homme me donne-t-il des informations? Il ne comprend pas ses motivations. Il ne veut pas d'argent, c'est quoi? Alors, je ne sais pas s'il faut raconter ou pas, mais à la fin, on reste finalement... En fait, le personnage devient un indic parce qu'il veut se venger. Mais la raison pour laquelle il veut se venger d'une femme qu'il a trahie n'est pas classique. Il ne veut pas simplement qu'elle aille en prison. Il veut qu'elle aille en prison et qu'elle sache que c'est lui le coupable, de façon à ce que cette haine et cette révolte qu'elle aura contre lui l'oblige à penser à lui constamment, parce que c'est la femme qu'il aimait. Et donc il y a eu une espèce de retournement de situation, et à la fin il dit, mais la haine, c'est un lien. Bon, voilà, c'est des choses comme ça que j'aime bien. Après, c'est à nous de continuer l'histoire. Hein. On a tout un roman, ou trois romans éventuellement à faire derrière.
Donc, pour en venir à ce que vous disiez sur l'énonciation, qui était très intéressant, vous avez pu justement changer un petit peu, donc soit c'était la première personne, soit c'était la troisième, tantôt au présent, tantôt au passé. Et cette variation aussi...
Il y a des passés différents aussi. Hein. Il y a des passés courts et des passés longs. Par exemple, j'ai une nouvelle entièrement l'imparfait.
Oui. Ce qui...
Pas très facile techniquement.
Et ça vous permet aussi de changer de ton. Je pense par exemple à l'une des nouvelles peut-être les plus légères qui concerne une trahison amicale cette fois-ci. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui font la queue pour se présenter à la nouvelle star. Et donc elles sont issues d'un milieu social assez défavorisé. C'est très net dans l'écriture,
parler,
dans ouais. le voilà, ça ne fait pas de doute. Donc on a une écriture qui est tout à fait adaptée à ce genre d'expérience, et on a, enfin c'est plein d'espoir. C'est en même temps, on sent que pour elle c'est très grave, pour celle qui raconte l'histoire et prend vraiment ça très au sérieux. C'est sa vie qui pourrait commencer demain. Donc elle est vraiment pleine d'espoir. Et à côté de ça, on a, je pense à une autre, par exemple, qu'on peut opposer, c'est celle autour d'un élève de classe préparatoire à Paris, classe préparatoire Henri IV, cette nouvelle est essentiellement sur le ton de la rébellion. Donc il raconte comment finalement il va s'en aller au bout d'assez peu de temps, finalement à peine une semaine passée en classe préparatoire, à cause de ses professeurs qu'il a en face de lui, dont un certain professeur surnommé Kleps. Donc à chaque fois on a des tons vraiment vous jouez avec ça, c'est très clair.
C'est la chance. J'ai beaucoup observé les candidats et les candidates de la Nouvelle Star avec passion. Parce que c'était un moment où je travaillais beaucoup en banlieue, justement, et je faisais un travail sur le monde scolaire, et sur les jeunes. Et j'étais à Clichy-sous-Bois, justement, à ce moment-là, juste avant les émeutes qu'il y a eu peu après. Et je voyais, quand je regardais le soir l'émission à la télévision, je me disais, c'est mes clients, ils sont tous là. Et donc je regardais ça avec beaucoup d'intérêt, je regardais comment ils parlaient, comment ils s'habillaient, et ce qui me frappait et qui me touchait aussi, c'est la manière dont ils disaient « c'est ma dernière chance ». C'est-à-dire, ça nous paraît monstrueux que la chaîne de télévision monte ça de façon si spectaculaire, mais pour eux c'est sérieux. Ils ont l'impression finalement qu'ils ont, comme ils disent, tout raté, et que là c'est finalement la dernière occasion. C'est une espèce de rattrapage impossible, puisqu'il y aura finalement un seul à gagner sur, je ne sais pas combien, 30 000. Et il y a quelque chose de très pathétique là-dedans. Et donc, sur un mode léger, un mode un peu souriant, un peu marrant, j'espère, j'ai voulu parler de ces gens-là qui m'ont touché, finalement. Et je me suis moqué, évidemment, aussi de leur parler de tout ça, mais affectueusement. Et dans le cas de la Cagne, c'était tout autre chose. J'ai imaginé un élève de Cagne qui, au bout de 3 semaines, décide de... Ben non, il s'en va. Il s'en va et il dit pourquoi. Il dit pourquoi. C'est pas ça parce que ses professeurs sont pas sympathiques ou sont... C'est simplement que...
Il n'est pas à sa place.
Il a le sentiment que cet académisme-là, il n'en veut pas. Et qu'il veut se révolter contre ça. Et donc, il revient dire à ses parents, je quitte la Cagne d'Henri IV. Et ses parents sont totalement consternés, parce que pour ses parents, c'est tout ce qu'ils auraient, eux, évidemment, voulu faire. Et donc, il y a un peu une réflexion sur la manière dont la culture est une forme de trahison. C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu... J'étais très lié avec un écrivain qui s'appelait Louis Guillou, et que j'ai connu quand j'étais enfant et adolescent, qui était un vrai, vrai grand écrivain. Et il me disait ça, lui qui venait d'un milieu très modeste, il me disait finalement, quand on se cultive, on trahit. Et cette idée-là que je suis parti, c'est-à-dire finalement, quitter la Cagne, c'est trahir vis-à-vis de ses parents, mais pour l'élève également, accéder à la culture, à cette chance, avoir cette chance, c'est aussi une forme de trahison. Enfin, c'est assez compliqué.
C'est une phrase choc, justement. Oui. Se cultiver, ma parole, il me semble bien que c'est trahir. C'est vraiment une phrase choc.
Oui, est-ce
que vous pourriez développer un tout petit peu, parce qu'autant la trahison de cet élève envers ses parents qui se sont sacrifiés pour le faire aller là, jusque-là, est assez évidente, mais est-ce que vous pourriez juste développer un tout petit peu en quoi, d'après vous, se cultiver, c'est trahir?
La culture est ambivalente. C'est-à-dire que la culture, c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux, puisque c'est une espèce de langage d'une certaine manière universelle, mais en même temps, la culture est clivée. C'est-à-dire que quand on accède à la culture, on sort de son milieu d'origine. Si on sort, par exemple, d'un milieu qui n'est pas cultivé, qui n'a pas accès à la culture... Ma femme est anthropologue, par exemple. Elle travaille avec des Indiens des Andes, des Indiens de Bolivie. Là-bas, quand les gens, tout simplement, apprennent à écrire, ils franchissent une étape, un seuil vraiment considérable. Ils sortent de leur milieu. Alors, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que c'est de les garder dans l'homogénéité, la cohérence, l'intelligence de leur milieu? Ou est-ce que c'est, par l'intelligence de la culture, de s'en arracher, de s'en extraire, avec toute la douleur qu'il y a là-dedans, pour accéder à un monde plus vaste? Je pense que c'est la question très simple que la plupart d'entre nous se sont posées, sauf s'ils ont eu la chance de grandir dans un monde homogène, et je dirais sans aucune connotation péjorative, dans un monde bourgeois, où finalement la culture était donnée au départ et était d'une certaine manière évidente. Et là, au contraire, il fallait faire un effort pour imaginer les autres mondes. Mais je crois que pour le reste des gens... Par exemple, pour ma génération, le monde d'où moi je suis sorti, c'est sûr que la culture, la philosophie, etc., c'était une transgression. Et c'était une transgression à la fois étincelante, merveilleuse, mais c'était incontestablement un reniement aussi. Et c'est une figure de la trahison que je ne voulais pas négliger.
D'accord, une trahison de ses propres origines. D'accord. Alors, quelques mots sur la première nouvelle de ce recueil, maintenant, si ça ne vous ennuie pas. J'avoue que personnellement, c'est celle qui m'a le plus enchantée. C'est donc brièvement une histoire de trahison assez originale. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui est atteinte d'une maladie, enfin, qui a un cancer en phase terminale. Et donc, elle est suivie par un médecin qui va décider de l'accompagner vraiment jusqu'à son décès. Sauf que, contre toute attente, elle entre en rémission. Et là, à ce moment-là, la réaction du médecin est très surprenante parce qu'il va réagir de façon assez radicale et se désintéresser complètement de cette malade et en être désagréable. Et donc là, on ne comprend pas très bien. Donc on sent qu'il y a une ambivalence de cette trahison. D'une part, cette femme qui a quelque part trahi la science, en fait,
en se rétablissant. Elle meurt pas. Ouais.
Et cet homme, ce médecin, qui est censé être tout entier à la cause dévoué à la cause de son patient, de sa patiente, finalement, qui l'a trahi au dernier moment.
Donc c'est. Oui, ce médecin est un médecin humaniste. Chez les médecins, je ne sais pas si c'est les médecins parmi vous, les médecins disent un tel est humaniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, humaniste, c'est en gros qu'il s'occupe de ses malades, qu'il est attentif, qu'il veut bien faire autre chose que de la science et porter aussi un intérêt aux êtres humains qu'il soigne. Et particulièrement dans la médecine de pointe, dans la médecine de CHU, à l'hôpital, c'est un phénomène qui se remarque. C'est-à-dire que les médecins ont tellement peur de la mort, tellement peur du corps des autres, de la parole des autres, que finalement, ils restent dans une espèce de système de défense extrêmement noué, très établi, et qu'il aurait peut-être nécessaire. Je les ai regardés travailler pendant 2 ans et demi, et je les comprenais souvent, c'est-à-dire de ce besoin de distance. Mais donc, il y a quelques humanistes qui, en plus, prennent le risque de la parole, prennent le risque de s'approcher de l'autre, etc. Et donc, c'est l'histoire d'un médecin humaniste qui s'occupe avec beaucoup de compassion, beaucoup d'attention d'une jeune malade qui ne se plaint pas vraiment, qui a un mauvais cancer, comme on dit, et dont on s'attend qu'elle meure. Voilà. Au début, je raconte la scène, la visite, et la scène classique où le patron dit aux infirmières, aux étudiants, aux externes, aux internes, etc. On va regarder les radios dehors, on va regarder les radios, ça veut dire on va parler entre nous, et il dit voilà, c'est pré-mortem, elle va très, très rapidement disparaître. Et il s'occupe d'elle merveilleusement. Et puis, elle va mieux. Parce que dans la médecine, il se passe que ce phénomène extraordinaire que dans les plus mauvais pronostics, il y a tout de même un pourcentage de on ne sait pas quoi. Moi, j'ai observé ça, j'étais dans un service d'oncologie, de cancérologie, du poumon. Et en gros, tous les malades mouraient. Mais il y en avait 5% qui ne mouraient pas. Et les 5% qui ne mouraient pas, on ne savait pas pourquoi. Et j'assistais au staff des médecins et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Vraiment, il va mieux. Il va mieux. Ces cellules, mais ce n'est pas possible.
C'est la déception.
Il y avait quelque chose, il nous trahit. Il nous trahit ou il trahit notre culture, notre système d'explication, ce par quoi nous sommes efficaces. Ce qui nous permet justement d'agir le mieux possible, etc. Et il prend la tangente, en quelque sorte. Et j'avais été assez, dans mon fort intérieur, parce que c'est évidemment quelque chose que je ne livrais pas, assez frappé par l'espèce de rancœur quand même qu'il manifestait. Quoi. On pourrait considérer qu'on est content qu'un malade guérisse, même s'il guérit par des voies qui ne sont pas tout à fait celles de la science dite exacte. Mais non, finalement, ils étaient quand même contrariés par ça. Et donc, je me suis amusé à pousser cet exercice, c'est-à-dire à faire que cette jeune femme obstinée, qui a une espèce de volonté de vivre formidable, calme en même temps, maîtresse d'elle-même, elle arrive au bout, elle s'en sort, et à ce moment-là, le médecin la lâche, quoi. Quand il croit qu'elle va mourir, et qu'elle rentre chez elle pour mourir, il l'accompagne sur le pas de l'hôpital et avec beaucoup de gentillesse, etc. Et quand elle s'en va, parce qu'elle va bien, ou qu'en tout cas elle semble avoir tous les signes de rémission, il n'est plus là. Et je pense que c'est... D'abord que c'est pas si fantaisiste que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'obscur dans la pratique médicale et dans la relation du patient du thérapeute au patient. Et qui trahit qui le médecin, elle a le sentiment que le médecin l'a trahi, et le médecin a le sentiment qu'elle l'a trahi, et tous les deux ont raison. C'est en ça que je dis que le traite, c'est pas si simple. Voilà.
Oui. Donc là, je vous ai lancé sur ma préférée, puis je me permets de vous demander la vôtre, justement. Quelle est la nouvelle que vous avez préféré écrire, ou celle que vous considérez comme peut-être la plus aboutie?
Moi, je ne pense pas trop comme ça. Je pense que dans les nouvelles, forcément, les gens qui lisent, il y a 12 histoires, et ils en préfèrent forcément quelques-unes. J'ai observé que... souvent, mes lectrices préfèrent la première, celle que vous avez, que vous êtes représentative.
C'est pas original.
Non, mais j'ai observé ça. Je ne suis pas sûr que mes lecteurs se portent forcément sur celle-là. Moi, j'aime mes personnages. Quand je finis un livre, je ne me demande pas. Je ne peux pas dire ça. Le sentiment que j'ai, si je relis ce livre dans 5 ans, je vais le relire d'un œil critique en me disant ça m'agace, ça c'est bon, ça c'est bien, ça m'arrive aussi, voilà, là j'aurai une distance. Là, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps et je prends tout en bloc, c'est-à-dire mes personnages. J'ai des personnages plus forts que d'autres, mais j'aime assez les personnages faibles. Je trouve que les personnages faibles sont plus intéressants à écrire. Et souvent, vous savez, dans le roman français actuel, il y a une espèce de concours de noirceur. C'est-à-dire, finalement, il y a une prime à la noirceur. C'est-à-dire, plus l'histoire est sinistre, plus il y a de morts, plus il y a de suicides, plus il y a de je ne sais pas, tout ce que vous voudrez, enfin, tous les massacres, les bombes, les machins, tout ça, c'est dans l'air du temps.
C'est pas le roman français.
Le journal télévisé, c'est quand même les faits divers. Hein. Et donc, il faut essayer de faire neuf dans le fait divers. Et donc, si on tue, il ne faut pas se contenter de tuer. Il faut quand même que... Voilà. Et ça, c'est quand même facile, quoi. Vraiment, pour l'écrivain, ça ne mange pas de pain. C'est quand même pas compliqué. J'ai été scénariste, j'ai écrit une vingtaine de films. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus facile que de faire un film où les personnages meurent à la fin. Ce qui est compliqué, c'est de faire un film où tout le monde est vivant et heureux. Alors ça, pour que les gens s'intéressent, il faut trouver ailleurs les ressorts. Et faire du grandiose, c'est pas un hasard si les scénaristes du monde entier adorent les serial killers, par exemple. Les serial killers, c'est vraiment facile. Vous êtes dans votre chambre, au quatrième étage, et derrière un type surgit, tout ça, c'est formidable. Et c'est plus difficile de raconter une petite soirée en train de manger une pizza tranquillement devant la télé, et les gens vont lire ça. Qu'est-ce qui se passe? Où est le... Et là, ça me... C'est pour ça que mon premier roman, j'avais voulu un roman où il y ait 40 personnages, dont aucun ne serait moi. Et je voulais que ça soit sur le mode de comique, enfin le mode de la comédie, parce que je trouve que les comédies sont tellement plus difficiles, enfin plus exigeantes. Et donc voilà, je ne crois pas que le... Ou alors il faut être Shakespeare... Ce que j'aimerais bien, mais je ne suis pas Shakespeare. Et encore, Shakespeare est bon dans les comédies. Mais. Ou alors peut-être faut être Sophocle. C'est-à-dire, il faut avoir cette espèce d'équilibre harmonieux qu'a Sophocle, qui lui permet justement de sortir des choses extraordinairement complexes et sombres, et ensuite de continuer à vivre assez. Puisque Sophocle est un homme heureux, si j'ai bien compris. Je ne crois pas que le pathos. Que le est un bon ressort de la littérature. La tragédie, oui, ça c'est autre chose. Mais la tragédie est quelquefois économe et très, très sobre.
Mais le pathos fait vendre, hein, quand même.
Le pathos fait vendre, c'est sûr.
Bon. On peut vous le garantir. quelques mots sur vos sources d'inspiration, un petit peu, parce que tout à l'heure, en coulisses, nous parlions de fiction, d'autofiction, tout ça. Donc, pour savoir un petit peu comment vous avez pensé à... Comment vous avez imaginé vos personnages? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez assisté? Donc, tout à l'heure, vous nous parliez, par exemple, pour ça, sur le médecin. Donc, c'est basé sur une scène.
Oui, quelquefois, le fait que j'ai fréquenté un milieu donne une idée. Après, évidemment, ça n'est pas du tout... les personnages, je les ai inventés, bien sûr. Tout à fait. Mais très longtemps, ça doit être mon 28e livre ou quelque chose comme ça, très longtemps, j'ai pensé que je ne toucherais jamais à la fiction. Et... Je pensais que la vie était plus riche et plus surprenante. Et je trouvais que la fiction, c'était un peu une version un peu pâle de la vie, finalement. Je pense à un livre, par exemple, comme « Les enfants de Sanchez » d'Oscar Lewis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, d'une certaine façon? Alors, j'étais à ce moment-là enquêteur et j'allais sur le terrain, j'écoutais les gens. Avec une espèce de rage, hein. Enquêteur, c'est pas de piquer les dossiers du juge d'instruction. Enfin, c'est d'écouter pendant des mois, quelquefois des années, les gens, et puis à partir de là, d'essayer de rassembler tout ça. Et j'ai eu beaucoup de passion pour ces livres-là. Et puis, qui étaient des livres finalement de société. Enfin, j'ai essayé de rendre la société plus transparente à elle-même. J'ai travaillé sur l'école, j'ai travaillé sur différents sujets. Et puis après, j'ai toujours aimé la mer, je suis breton, je suis né près de la mer. J'ai toujours eu le sentiment, mes parents m'ont toujours dit que c'était une chance d'être près de la mer, que c'était un privilège. Et c'est quelque chose que je rentrais et je me suis dit, mais pourquoi n'écrirais-tu pas sur la mer? Donc là, j'ai fait des livres plus personnels où je me suis fait plaisir, j'ai écrit Besoin de mer. Je me suis embarqué sur un remorqueur de sauvetage qui s'appelle l'Abeille Flandre, qui est basé à Brest. Et j'ai travaillé à son bord pendant un an, comme les marins, comme matelot. Et ça m'a donné C'était d'abord une expérience formidable, et puis c'était vraiment un récit vraiment facile à faire. Ça venait, j'étais plein de mes personnages et plein de mes situations. Et puis voilà, donc j'ai écrit pas mal de choses sur la mer, et puis ça m'a pris de partir vers la fiction. Je crois que c'était la liberté d'abord, et puis je me suis dit on va compliquer autrement. Il m'a semblé que j'avais envie de protester finalement contre une forme de roman qui domine en France, qui est l'autofiction. C'est-à-dire finalement, je raconte mon dernier divorce, mais je remplace Annie par Julie. Et je dis, j'ai fait un roman. Et je ne suis pas d'accord que c'est un roman. Je pense que si on fait un récit, il faut faire un récit. Je suis l'éditeur, par exemple, d'Alain Raymond, dont j'ai édité pratiquement tous les livres, dont pour moi ce chef-d'œuvre qui s'appelle « Chaque jour est un adieu », et où il raconte son enfance dans une famille à la limite de la Bretagne, la Normandie, dans un milieu extrêmement pauvre. Et il a veillé dans ce livre à ce que tous les noms de lieux soient exacts, à ce que tous les noms de personnes soient exacts, à ce que ses frères, ses sœurs soient désignés par leur prénom. Et il me dit, je lui disais, mais pourquoi tiens-tu tellement à ça? Et il me disait, c'est mieux. Ce qui n'est pas, d'un point de vue théorique, une explication suffisante. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'on atteignait à ce moment-là une sorte de nudité, de sincérité extrême et d'exposition de soi. Et qu'à ce moment-là, on touchait vraiment à la littérature. Je ne crois pas une seconde que la littérature, c'est la fiction, et que la non-littérature, c'est la non-fiction. Je pense qu'en littérature, il y a de la fiction, en littérature, il y a de la fiction et de la non-fiction, et puis qu'il y a des choses qui s'intitulent au roman qui ne sont pas de la littérature. Et ça m'a pris d'un coup l'envie d'écrire des choses qui aillent à l'encontre de ce courant. J'empêche personne d'écrire, hein, je veux dire, je trouve très bien que les gens écrivent, mais la dominante de ça ne me convient pas. Je pense que écrire, c'est produire des univers, c'est produire des mondes, c'est recycler finalement des expériences qu'on a eues, et c'est surtout essayer de ne pas s'attendrir sur soi, c'est sortir de soi. Et c'est pour ça que mon premier livre était une comédie, et je me suis régalé à la faire. Ouais, j'ai m'a donné du travail, mais j'étais content, et en plus j'étais persuadé que ça marcherait pas, ça a marché, donc c'est merveilleux. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je veux continuer dans cette fiction qui n'est pas une espèce de voyage au fond de mon nombril, qui me paraît quand même quelque chose qui domine actuellement. Et que,
littérature française, du moins.
Qui est quelquefois géniale. Enfin, je veux dire, ça peut être magnifique, très bien. Mais ça n'ouvre pas le monde. Qui est plus intéressant que ça, plus surprenant, je trouve. D'accord. J'ai plus de plaisir de ce point de vue-là à fréquenter la littérature latino-américaine, la littérature anglo-saxonne. J'avoue que c'est riche, on est emporté, enfin, c'est formidable.
Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le livre que vous êtes en train d'écrire, justement, tout à l'heure.
Juste en donner le thème.
Oui, par exemple.
Ça se passe pendant la chasse aux sorcières aux États-Unis, Hollywood. Et c'est cinq personnages qui sont enfermés par leur producteur dans une villa et qui doivent écrire une comédie musicale.
D'accord.
Et voilà. Et je vais peut-être continuer un peu sur le thème de la trahison, finalement.
Pourquoi pas, effectivement.
Et du courage.
D'accord. Alors, quelques mots maintenant sur cette maison d'édition. Donc l'édition Dialogue. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué Charles Camaret, qui est un de vos amis, et que c'était une commande. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'originalité de cette maison d'édition qui est évidemment liée au livre numérique? J'aimerais vous entendre un petit peu sur cette question, parce que c'est quand même très intéressant.
Alors, j'ai l'air d'essayer de vous vendre quelque chose, mais ça n'est pas le cas. Je fais juste une démonstration. Si vous achetez ce livre, vous avez le livre, qui est un beau livre papier. Et puis, à la fin, il y a ce petit truc-là qui s'appelle un code flash 2. C'est ce que, quand vous prenez l'avion, c'est ce qui permet, par exemple, quand vous passez votre carte à l'embarquement, ce qui permet d'être reconnu. Et en fait, c'est ce code flash 2 que mon éditeur, Charles Kermarec, a eu l'idée d'intégrer à un livre en offrant le texte numérique du livre. C'est-à-dire que ce livre est à la fois un livre papier et un livre numérique. Alors pourquoi nous faisons ça? Je dis nous parce que je suis solidaire de la démarche. D'abord parce que nous pensons, les uns et les autres, je fais partie du bureau de la Société des gens de lettres, de l'Association des auteurs, et nous essayons d'avoir une réflexion là-dessus. Nous pensons que le livre numérique, ça va nous exploser à la figure. Pas du tout au sens où ça supprimerait le livre papier. On ne va pas remplacer un support par un autre, comme par exemple ça s'est produit pour la musique. Le MP3 a assez largement remplacé le CD ou le DVD. Ça n'est pas du tout ce qui nous menace, ni ce qui nous tracasse. C'est, à part peut-être dans le domaine de des publications scientifiques, peut-être des publications de droit, partiellement des publications d'économie, de choses comme ça, pour les revues, qui sont très largement déjà numérisées, je ne crois pas qu'il y aura substitution d'un support à un autre. Mais nous allons voir, je pense, apparaître très rapidement, dans les 18 prochains mois, j'en prends le pari, des pratiques diverses du livre. C'est-à-dire que les gens ne vont pas abandonner du tout le papier. Il y a des gens qui vont continuer à lire des livres papier, tout simplement, comme aujourd'hui. Et puis d'autres vont lire ce livre au lit le soir et le lendemain vont prendre le métro et continuer à lire une nouvelle sur leur iPhone et vont ensuite rentrer chez eux, reprendre le livre. Et on aura de plus en plus, je pense, un usage qui sera polymorphe de l'écrit, de la création, et il faut que nous nous en préoccupions. Pourquoi? Parce que des très grands groupes internationaux, Google, qui numérise les livres illégalement actuellement, j'ai découvert que mes livres, par exemple, étaient totalement numérisés par Google, ce qui est tout à fait contraire aux droits d'auteur, tout à fait contraire au copyright, etc. Bon, il les a numérisés très bien, il se les a procurés à la bibliothèque d'Harvard, c'est très chic, c'est très bien, mais c'est quand même très immoral. Et la GDL, par exemple, leur avons fait un procès et où nous avons obtenu gain de cause. Mais c'est surtout des boîtes comme Amazon ou comme Apple qui vont en gros nous vendre soit des services. Alors pour Amazon, ça sera le Kindle, c'est le livre numérique. Pour Apple, ça va être l'iPad, dont on nous rebat les oreilles, oui, beaucoup. Et la mise en condition est faite. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pas de développer la lecture ou le livre numérique, c'est en fait de nous rendre dépendants d'une source. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète un Kindle doit se fournir sur le site d'Amazon, ou quelqu'un qui achète un iPad doit se fournir sur le site d'Apple. Nous sommes contre ça. Nous sommes pour un monde ouvert, en particulier dans le domaine du livre. Et donc, nous, pour le principe, parce que pour l'instant, c'est symbolique, nous montrons cela, nous voulons associer le numérique au papier, le papier au numérique. Et le donner aux gens, le vendre aux gens, ça ne coûte pas plus cher pour l'instant qu'un livre normal, en leur disant, gardez cela à l'esprit. C'est-à-dire, vraiment, que vous ayez une lecture technologique appuyée uniquement sur le papier, ou sur le papier numérique, ou totalement numérique, peu nous importe, mais restons ensemble ouverts, respectons le copyright, respectons le droit d'auteur, respectons les libraires. Et il nous paraît évidemment très important de ne pas bousiller la librairie, et c'est quand même ce qui est actuellement en jeu. Hein. Et donc voilà, c'est la démarche que mon éditeur et ami a mise en route, je dirais symboliquement. À lui seul, il ne va pas sauver le monde, mais il faut faire ce qu'on peut faire là où on est. Et je crois qu'il plus est, actuellement, aux éditeurs artisans. C'est-à-dire, je pense que quand on est éditeur, il faut être professionnel, il faut être solide, il faut surtout avoir un très bon diffuseur, c'est très important. On ne peut pas se diffuser, faire du porte-à-porte, ça, c'est pas possible. En revanche, je pense que des maisons d'édition raisonnées, qui ont des politiques restreintes, qui vont publier peut-être 25 livres par an, 30 livres, et pas 300, encore moins 3000. Là, je parle de ce que je connais, enfin, que je fréquente depuis 30 ans. Je pense qu'elles vont apporter plus de plaisir aux acheteurs de livres, à ceux qui aiment la littérature, que les autres, parce qu'elles auront des politiques d'auteur. Si vous voulez, le problème de l'édition, il n'est pas compliqué. Qu'on soit chez Albin Michel, qu'on soit chez Au Seuil, qu'on soit chez Gallimard, etc., ce sont des très bonnes maisons. Elles savent très bien faire des livres, elles savent très bien les commercialiser, elles savent bien les lire, les repérer. Mais est-ce qu'elles auront toujours des politiques d'auteur? C'est-à-dire de prendre un auteur et puis de le suivre. Un auteur, c'est quelqu'un qui n'est pas égal, ou en tout cas qui n'a pas un succès égal. Quand j'ai publié ce livre, je savais très bien que ce livre n'allait pas vendre. On en est à 6000 exemplaires, c'est pas si mal. Et je suis très content, j'ai vendu des livres à 150 000. Hein. Mais on sait très bien que mécaniquement, à cause du genre, à cause de la diffusion, etc., c'est pas un livre qui va vendre. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et on pense, en tout cas mon éditeur pense que c'est de la littérature. Bon, alors on y va. Et un auteur aura de la chance sur un livre, il n'aura pas de chance sur un autre livre, il faut le suivre. Et c'est non seulement intéressant et intelligent, c'est-à-dire du point de vue de la littérature, mais c'est aussi rentable. C'est-à-dire que rien n'est pire que cette édition qui veut faire des coups. Et, par exemple, une maison que j'aime bien, qui est Lafon, par exemple, je pense à Robert Lafon parce qu'il vient de mourir, et c'est un homme que j'ai fréquenté et aimé. Aujourd'hui, Lafon, ils font des coups. Donc, ils font des one-shots. Ils publient un livre, ils s'emballent pour le livre, ils mettent sur le marché, ça marche, on continue, ça marche pas, on arrête. Ça, je pense qu'il faut rompre avec ça. Je pense que c'est un danger, ça fait faire des faux livres, des livres qu'on n'aime pas, qu'on ne sait pas très bien pourquoi on les publie, c'est parce que quelqu'un est connu, parce qu'un auteur est connu, on n'osera pas lui dire « votre livre n'est pas vraiment abouti, vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre manuscrit, il faut le reprendre, il faut travailler, etc. » Ouais, j'étais l'éditeur d'Éric Orsenna, je sais bien comment Éric travaille. Éric, il demande de l'objection, il fait 5-6 moutures, s'il faut. Et c'est comme ça que les gens sérieux produisent de la littérature. Et pour ça, il faut s'en donner le temps, il faut s'en donner le... Voilà, c'est pour ça que je plaide pour cette édition réfléchie, artisanale, qui ne publie que ce qu'elle aime, qui ne veut pas faire forcément des coups, mais qui joue sur la durée. Et j'espère qu'on réussira à la faire vivre, parce que ça me paraît le cœur du métier, la raison d'être.
Et encore faut-il pouvoir se le permettre. Mais... Donc, vous pensez que vous allez continuer votre collaboration avec les éditions Dialogue?
Ah ben bien sûr, tout à fait, oui, tout à fait.
D'accord.
Je vais y collaborer en tant qu'éditeur.
Ah, d'accord.
Ça me plaît bien.
Ça vous...
Oui, je mets en pratique ce que je dis. Donc,
D'accord. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc,
Merci à vous d'être venu.
Pour ce moment,
et à vous de m'avoir invité. C'est très chaleureux. C'est très... Vous savez, on vit une drôle de vie, nous, on est dans un non-trou, on sort les livres, et puis après, il n'y a que des soirées comme celle-ci où on en parle, finalement.
Voilà, ouais, merci encore.